D'abord, le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, le Quai d'Orsay en fait-il assez pour les Français emprisonnés en Iran? Ils sont quatre détenus à Téhéran. Une famille dénonce ce soir sur notre antenne le peu d'entrain du ministère des Affaires étrangères. La famille de Benjamin Brière, condamné à 8 ans de prison pour espionnage. Témoignage dans un instant. Un cercueil pris dans les violences du conflit israélo-palestinien. Le cercueil de la journaliste palestinienne Shirin Abou Akleh au bord de la chute lors de ses obsèques très mouvementées à Jérusalem aujourd'hui. Correspondance à suivre. À suivre aussi la réouverture de l'opéra de Lviv en Ukraine. Des candidats du groupuscule d'ultra-droite Génération Identitaire, candidats zémouristes aux législatives. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel qui dénoncent la vente du club de foot du Red Star. Et pour finir, une femme de pouvoir hors norme. Le deuxième volet de la biographie d'Edmond Charleroux vient de paraître. Rendez-vous en fin de journal.
France Inter. Ils sont désormais quatre aux mains des mollahs iraniens et certaines familles interpellent l'État français.
On a appris hier en effet qu'un couple de Français, tous les deux membres du syndicat Force Ouvrière, avaient été arrêtés en Iran. Cécile Coller et son compagnon étaient en voyage touristique dans le pays. Arrestation sans fondement selon Paris qui appelle à leur libération immédiate. Deux détenus français de plus donc qui s'ajoutent à l'incarcération de la chercheuse Fariba Adelra condamnée en 2020 à 5 ans de prison et à celle d'un jeune Français, Benjamin Brière, accusé lui d'espionnage pour avoir fait voler un drone dans un parc national, condamné en janvier dernier à 8 ans de détention. À chaque fois, des situations dramatiques pour les familles. Certaines préfèrent rester silencieuses, quand d'autres font ouvertement pression sur les autorités françaises. C'est le cas de la famille de Benjamin Brière, qui accuse l'État d'inaction. Jean-Sébastien Soldaini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez joint la sœur de Benjamin Brière.
Et c'est cette accumulation d'emprisonnement qui fait réagir Blandine Brière et ses proches. Elle voit deux nouveaux Français aux arrêts et se dit qu'ils vont subir le même sort que les autres, des dossiers qui traînent en longueur, une gestion discrète et un dialogue diplomatique qui n'aboutit à rien. Alors elle demande à la France d'aller plus loin.
Évidemment qu'ils en font pas assez. Ça fait bientôt 2 ans que Benjamin est incarcéré là-bas et qu'il se passe rien. Surtout que maintenant, ils sont 4 et que le jeu est clair. Ce sont des otages et ils servent de levier. Donc, aujourd'hui, on demande à la France de mettre en place des sanctions pour faire cesser la politique de prise d'otage qui a lieu systématiquement en Iran aujourd'hui. Il faut mettre fin à ce jeu-là. Ça veut dire que plus aucun touriste n'est à l'abri en Iran aujourd'hui.
Il y a le risque de voir la France devenir de plus en plus vulnérable dans ses échanges avec l'Iran. Tous ces prisonniers pouvant être utilisés comme monnaie d'échange dans les différentes discussions pour peser sur les négociations autour de l'accord nucléaire, pour obtenir la libération de ressortissants iraniens détenus en Europe, des méthodes que réfutent les autorités iraniennes.
Jean-Sébastien Soldat. Ajoutons que l'Union européenne, elle demande la libération d'un chercheur irano-suédois, Ahmad Reza Jalali, condamné à mort, accusé d'avoir transmis des informations aux services secrets israéliens. Il doit être exécuté la semaine prochaine. L'image du jour à l'étranger, c'est ce cercueil aux couleurs de la Palestine qui manque de tomber dans les rues de Jérusalem. Le cercueil de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abou Akleh, enterrée aujourd'hui dans un cimetière près de la vieille ville. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Oui, bonsoir à tous.
Correspondant à Jérusalem, des obsèques sous très haute tension.
Oui, avec donc ces images à peine croyables à la sortie du corps à l'hôpital Saint-Joseph, la foule qui porte le cercueil de Shirin Abou Akleh est molestée par la police israélienne qui charge. Les porteurs basculent et le cercueil avec eux presque à terre. Confusion totale, violence physique et plus encore violence symbolique. La police israélienne affirme qu'elle a dû agir car les Palestiniens chantaient des chants nationalistes et incitant à la haine et qu'ils ont reçu des pierres. Les porteurs sont retournés dans l'hôpital. Puis le cortège funèbre est parti pour la vieille ville. Une foule nombreuse, empêchée par la police montée et les barrières, a été refoulée parfois. Mais dans les ruelles, devant l'église grecque, d'autres centaines de personnes étaient déjà massées. Là aussi, avec des keffiyeh et des drapeaux palestiniens, des chrétiens et des musulmans sont là, à la fois tristes et en colère. Après la bénédiction, le cercueil a été escorté par les scouts palestiniens à tambour et cornemuse. La police israélienne s'est tenue à distance, mais c'était trop tard. Les violences devant l'hôpital ont été diffusées en direct sur les chaînes d'info du monde entier, puis elles ont circulé à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Ce soir, l'Union européenne se dit consternée par l'usage de la force inutile, je cite, d'Israël pendant ses obsèques. Sur l'enquête, toujours aucune avancée. L'armée israélienne a indiqué aujourd'hui qu'il n'était pas possible de déterminer dans l'immédiat l'origine des tirs ayant tué la journaliste mercredi lors d'une opération de Tsahal à Jenin, en Cisjordanie. Jenin, où un soldat soldats israéliens a trouvé la mort aujourd'hui. Une nouvelle aide militaire de l'Occident à l'Ukraine, 500 millions d'euros de l'Union européenne, ce qui portera l'aide de l'UE à 2 milliards d'euros depuis le début de la guerre le 24 février, il y a bientôt 80 jours. Sur le terrain, le nord et l'ouest du pays ne connaissent plus de bombardements depuis des jours. À Kiev, 2/3 des habitants sont revenus. Et à Lviv, à 70 km de la Pologne, les Ukrainiens ont repris le cours de leur vie. Avant-guerre, la grande ville de l'ouest était réputée pour être la capitale intellectuelle et artistique d'Ukraine, une renommée qu'elle entend continuer à défendre. L'opéra de Lviv est d'ailleurs le seul dans toute l'Ukraine à avoir rouvert ses portes. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Macati et Valérie Crova.
La musique de Puccini envahit la salle de l'opéra de Lviv. Un couple répète la bohème à l'affiche ce dimanche. C'est un jeune ukrainien de 34 ans, Ivan Chernychenko, qui dirige l'orchestre. Il est originaire d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, une ville qui a été dévastée par les combats entre l'armée ukrainienne et les forces russes.
Je suis revenu à Irpin le lendemain de sa reprise par l'armée ukrainienne. J'ai vu ma maison incendiée. Mes parents ont été tués le 24 mars. Je pense toujours beaucoup à eux. Mais quand je joue Puccini, la musique a cette force magique qui fait qu'on oublie ses souffrances.
Tandis que tous les autres opéras d'Ukraine sont fermés depuis le début de la guerre, celui de Lviv a vu ses effectifs gonfler en quelques semaines. Le directeur du théâtre a obtenu une dérogation pour donner des représentations devant un public de 300 personnes.
La mission du Théâtre National est d'aider les spectateurs à surmonter leur choc psychologique et à transmettre des émotions positives, des sentiments positifs, pour que les gens puissent se détacher de la guerre, des actualités militaires.
Début mai, un concert a été diffusé en direct sur Internet pour récolter des fonds. Ils ont servi à financer un hôpital militaire. La musique aussi est mise à contribution pour soutenir l'effort de guerre.
Reportage de Valérie Crova et de Laurent Macchetti à Lviv, en Ukraine. On pensait que leur adhésion à l'OTAN serait rapide. L'entrée de la Suède et de la Finlande pourrait être finalement plus compliquée que prévu. La Turquie, membre de l'Alliance Atlantique, s'y oppose. Le président Erdogan reproche notamment à Stockholm et à Helsinki de servir, je cite, d'auberge aux terroristes du PKK. La Russie, de son côté, a annoncé la suspension de ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de demain. On en vient aux législatives en France. Éric Zemmour est donc finalement candidat dans la 4e circonscription du Var à Saint-Tropez. Et ce soir, on en sait plus sur les autres candidats du parti Reconquête. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
D'anciens membres du groupe Génération Identitaire, groupuscule d'ultra-droite, sont sur la liste.
Oui, d'anciens membres de Génération Identitaire déjà impliqués dans la campagne présidentielle, mais qui cette fois occupent le devant de l'affiche électorale. Jérémy Piano, d'abord figure de l'ultra-droite aixoise, était l'un des porte-parole du groupuscule. Condamné 2 fois en première instance pour provocation et incitation à la haine raciale, il est aujourd'hui candidat dans les Bouches-du-Rhône et était hier soir et ce matin dans le Var aux côtés d'Éric Zemmour. Autre figure de Génération Identitaire, l'un de ses fondateurs, Damien Rieux, passé par le RN, c'est désormais l'un des cadres de Reconquête et candidat dans les Alpes-Maritimes. Au-delà, c'est bien au sein du parti un duo identitaire qui gère dans l'ombre ses législatives. Philippe Schletter à la tête des investitures et Grégoire Tingaud, responsable du maillage local. L'un est le neveu du négationniste Robert Forisson. L'autre vient d'une famille d'extrême droite impliquée dans l'OAS. Les deux sont des très proches de l'idéologue identitaire et suprémaciste Jean-Yves Le Gallou. Des profils radicaux, donc loin de la droite RPR qu'Éric Zemmour rêve toujours d'incarner.
Élodie Forêt du service politique d'Inter. Emmanuel Macron lui entamera officiellement son 2e mandat ce soir à minuit, mais toujours avec le même Premier ministre. Jean Castex n'a toujours pas envoyé sa lettre de démission. Il ira donc au Vatican en déplacement dimanche en tant que chef du gouvernement. Un léger bug dans la numérisation des copies du bac. Quelques lenteurs sur le serveur chargé de numériser les épreuves des 524 000 candidats. Mais tout semble rentrer dans l'ordre. Plus de 90% des copies des épreuves de spécialité ont été numérisées selon le ministère de l'Éducation. Actualité numérique encore avec le feuilleton Twitter racheté par Elon Musk. Le patron de Tesla qui envoie des signaux contradictoires depuis hier soir. Il a d'abord dit suspendre l'acquisition du réseau social avant de se dire aujourd'hui toujours engagé à aller au bout. Au cœur de ses hésitations, le nombre de faux comptes Twitter estimé à 5%. Mais Elon Musk veut s'en assurer. En attendant, l'action a perdu plus de 10% de sa valeur à Wall Street. C'est suffisamment rare pour le souligner. Des personnalités de différents milieux s'unissent dans une tribune publiée dans le journal Le Monde pour empêcher la vente d'un club de foot, en l'occurrence celle du Red Star, un groupe américain. Le Red Star, installé à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, est un club emblématique en France, à la longue histoire. Il a été fondé à la fin du 19e siècle. À travers cette démarche, Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir.
Ces personnalités veulent défendre une autre vision du foot.
Hein. Oui, des personnalités, vous l'avez dit, politiques, hein, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Benoît Hamon, d'autres du monde culturel comme l'écrivaine Virginie Despentes, d'anciens joueurs du club, des associations de supporters, des journalistes, des historiens, tous sur le même terrain pour appeler à bloquer la vente du Red Star, ce bien commun, disent-ils, qui ne doit pas être sacrifié sur l'autel du profit. Car c'est bien le fond du problème à leurs yeux, la cession d'un club historique du foot français à un fonds d'investissement américain. 777 Partners, déjà propriétaire de plusieurs clubs en Belgique ou en Italie. Les signataires de la tribune rappellent que ce fonds est basé dans un paradis fiscal. Ils regrettent que le football français soit devenu, je cite, un Eldorado pour ses prédateurs financiers. Plusieurs clubs, en effet, ont été rachetés par des fonds étrangers ces dernières années, avec une issue, il faut le dire, pas toujours heureuse, comme ce fut le cas à Bordeaux ou Nancy. L'officialisation de la vente du Red Star avant-hier a entraîné une fronde des supporters qui craignent la disparition de l'identité de leur club.
Jérôme Val.
On termine, Sébastien, avec une femme puissante, comme on dit maintenant.
Oui, Edmonde Charleroux, amie des arts, femme de lettres et surtout femme de pouvoir. Edmonde Charleroux, disparue en 2000... je ne sais plus combien, a eu une vie très hors du commun. Le deuxième volet de sa biographie vient de paraître. Edmonde, l'envolé de Dominique de Saint-Pern, raconte avec talent cette existence menée tambour battant. C'est le choix culture d'Ilana Mor-Youssef.
Ce n'était pas une femme sympathique, mais alors, quelle femme ! Elle a dirigé Vogue, elle a fait La pluie et le beau temps à l'Académie Goncourt, elle a écrit des best-sellers, elle a été amie avec Aragon, elle a été une grande amoureuse et surtout une redoutable femme de pouvoir. C'est ainsi qu'apparaît Edmonde Charleroux sous la plume endiablée de Dominique de Saint-Pern.
Oui, elle aime le pouvoir, elle a su en faire de belles choses quand elle était à Vogue. Elle a fait vraiment évoluer le magazine vers des choses intelligentes, intéressantes. Quand elle a régnait, entre guillemets, sur Marseille. On disait qu'elle était ministre de la Culture par délégation conjugale. Elle a mis tout son pouvoir de conviction, toutes ses forces à réaliser, à créer des choses.
Pour ses recherches, Dominique de Saint-Pern a eu accès à des documents inédits. Elle a rencontré des dizaines de personnes, ce qui est admirable, elle le dit, mais elle ne cache pas les traits de caractère moins flatteurs. Par exemple, la radinerie légendaire d'Edmonde Charleroux.
Non, elle était vraiment radine. Je ne sais pas d'où ça lui vient. Ça, je n'ai pas compris parce qu'elle n'a jamais manqué d'argent. Et j'ai eu des kyrielles de témoignages, notamment Jeanne Lafitte, qui est libraire, à qui elle revendait les livres qu'elle recevait en service de presse. Son petit cousin se souvient de cadeaux de Noël qu'il a reçus. Il m'a dit, on voyait bien que c'était un truc qu'elle avait reçu, qui lui avait pas plu et qu'elle avait mal réemballé.
Edmonde n'était pas une sainte, mais elle a vécu intensément.
Voilà, Edmonde Charleroux disparue en janvier 2016. Toutes mes excuses à l'âge de 95 ans. Edmonde, l'envolée de Dominique de Saint-Pern est publié aux éditions Stock et demain à 6h50 dans les coulisses sur Inter. Partez sur les traces d'Edmonde Charleroux à Marseille.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sébastien Legénie. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Nouvelle hausse des températures ce week-end.
Oui, alors 17 à 21 degrés près de la Manche demain après-midi, 21 à 24 sur la Côte d'Azur, sur la Corse également, mais 25 degrés à Colmar, 26 à Paris, 28 à Châteauroux, 29 degrés à Grenoble. On atteindra encore le seuil de forte chaleur à Montélimar avec 30 degrés et 31 à Bordeaux ou à Toulouse. Et puis dimanche, il fera encore un petit peu plus chaud, une moyenne de 28 degrés au nord et de 29 au sud. Et
évidemment, encore beaucoup de soleil.
Oui, beaucoup de soleil demain. Alors juste quelques averses en montagne l'après-midi. Sur les régions de l'ouest, un voile nuageux avec une petite averse sur le nez breton, des averses orageuses sur le sud de l'Aquitaine en toute fin de journée. Elles remonteront vers la Bretagne dans la nuit. Et puis dimanche, ce sera chaotique des Pyrénées jusqu'au nord-ouest avec des averses, parfois de l'orage. Et ce temps progressera vers le nord de la Seine et l'Île-de-France, même jusqu'à la Bourgogne dans l'après-midi.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.